Partenaire pour donner et recevoir. De nombreux chrétiens cherchent à donner, mais ne savent ni par où ni par quoi commencer. La Bible donne des réponses claires aux questions que nous posons sur le don. Pour mieux comprendre, commençons par définir nos termes. Le besoin de l'homme et l'approvisionnement de Dieu. Avant de pouvoir pratiquer le don, nous devons savoir à quoi sert le don. Certains concepts fondamentaux à comprendre sont le besoin de l'homme et la provision de Dieu. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin est le manque d'une nécessité que Dieu, par la suffisance de sa grâce, se tient prêt à combler. Dieu est le fournisseur qui répond à tous les besoins de son peuple. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un besoin est un état qui existe à un moment donné et qui nécessite un approvisionnement ou un soulagement. Une fois qu'un besoin donné est satisfait, nous n'avons plus ce besoin. Qu'est-ce qu'un approvisionnement? Un approvisionnement est une fourniture qui répond à un besoin. Dieu est la source ultime d'approvisionnement. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Fournir un approvisionnement dans le domaine matériel peut prendre de nombreuses formes. Biens, services, fonds, nourriture, vêtements ou abris. Qui sont les nécessiteux? Dans la Bible, les nécessiteux sont simplement ceux qui sont dans le besoin, généralement pendant un certain temps. Deutéronome 15, 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. 2 Corinthiens 9, 9. Selon qu'il est écrit, Psaume 112, 9. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. La Bible ne donne aucune indication que les mêmes personnes seront toujours celles dans le besoin, mais cela indique qu'il y aura toujours de tels besoins parmi le peuple de Dieu. En tant que croyant, dans une circonstance, je pourrais être rassasié et dans l'abondance. Dans un autre, je pourrais avoir faim et être dans la disette. Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Avoir un besoin à un moment donné n'est pas nécessairement un indicateur d'un manque de confiance de ma part. Un frère peut toujours aider. Il y a de nombreux exemples dans l'Église primitive où les croyants ont mis leurs ressources en commun pour répondre à un besoin à régler éprouvé par certains individus ou groupes. Actes 2, 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Après la Pentecôte, afin de rester là où le feu de la parole brûlait vivement, de nombreux convertis sont restés à Jérusalem plutôt que de rentrer immédiatement chez eux. Ces croyants avaient besoin de nourriture, de vêtements et d'un abri, et les résidents croyants de Jérusalem se sont mobilisés pour répondre aux besoins. Un autre exemple de ce type est relaté dans Actes 6. Actes 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Au fur et à mesure que l'Église grandissait, le besoin s'est fait sentir de s'occuper d'individus particuliers qui n'étaient pas en mesure de prendre pleinement soin de leurs propres besoins. Ici, dans Acte 6, la distribution aux veuves était une distribution de nourriture. Ils ont dû en avoir besoin. Tous devaient partager à part égale les bénéfices distribués. Dons spontanés et planifiés. Il y a de nombreuses occasions à donner dans cette vie. Certaines sont prévues, d'autres ne le sont pas. Pour mieux comprendre comment cela influe sur nos dons de bienfaisance, il est utile de faire une distinction entre les dons spontanés et planifiés. Qu'est-ce que le don spontané? Le don spontané est la décision d'un individu de donner dans une circonstance particulière et peut-être imprévue. Il implique généralement un nombre limité de parties, telles que vous et le destinataire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes entièrement responsable de la situation. Luc 10, verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Qu'est-ce que le don planifié? Le don planifié est la décision d'un individu de participer à un effort collectif pour mettre en commun des ressources avec d'autres croyants dans un but caritatif commun. Le don planifié est basé sur une relation de confiance entre le donateur et les croyants qui organisent l'occasion de donner. Les besoins individuels et collectifs. Un moyen de donner est d'aider les individus qui sont dans le besoin parmi nous, ce qui peut être fait au niveau individuel ou collectif. Un autre est de soutenir les efforts collectif de l'Église pour rendre la parole accessible à un public aussi large que possible. Chacun a sa place. Les croyants de l'Église du 1er siècle ont aidé à répondre aux besoins individuels à travers des collectes et des besoins collectifs grâce à des partenariats. Donner pour répondre aux besoins individuels. Qu'est-ce qu'une collecte? Une collecte est un effort organisé par un groupe de croyants concernés pour mettre en commun les ressources offertes gratuitement pour répondre aux besoins d'un individu ou d'un groupe d'individus identifiés. Acte 11, 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arrivait en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Dans ce cas particulier, le besoin était très clair. Les croyants de Jérusalem manquaient de nourriture. Le secours requis était pour la nourriture. 1 Corinthiens 16, 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Verset 3. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Une collecte n'a pas besoin d'être financière. Il peut également s'agir d'un bien ou d'un service, ou même être dans la catégorie des nécessités de base, telles que la nourriture, les vêtements et le logement. Pensez à l'hospitalité comme exemple. Une collecte spéciale doit avoir un délai spécifié. Une fois que les besoins sont satisfaits, la collecte peut cesser et tous les actifs restants peuvent être consacrés à une autre fin de bienfaisance. Donner pour répondre aux besoins collectifs. Qu'est-ce qu'un partenariat? Un partenariat est la décision d'un ou plusieurs croyants de s'engager à contribuer continuellement aux efforts collectifs de l'Église afin de faciliter la diffusion plus large de la parole. La durée de l'engagement est déterminée par le désir de chaque contributeur concerné et la durée du besoin actuel. Notre premier et plus important partenariat est avec Dieu, alors que nous communions avec lui. Nous pouvons aussi avoir de la joie en communion et en partenariat avec d'autres croyants, alors que nous travaillons ensemble à la moisson du Seigneur. Philippiens 4, 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous pouvez contribuer à une collecte pour répondre aux besoins des individus. Vous pouvez contribuer à un partenariat pour soutenir la nécessité de faire passer la parole à autant de personnes que possible. En résumé, passons en revue les termes que nous avons appris jusqu'à présent. Un besoin est le manque d'une nécessité que Dieu est prêt à combler. Un approvisionnement est une fourniture qui répond à un besoin. Les nécessiteux sont ceux qui sont dans le besoin, généralement pendant un certain temps. Le don spontané est la décision d'un individu de donner dans une circonstance particulière et peut-être imprévue. Le don planifié est la décision d'un individu de participer à un effort collectif pour mettre en commun des ressources avec d'autres croyants dans un but caritatif commun. Une collecte est un effort organisé par un groupe de croyants concernés pour mettre en commun les ressources offertes gratuitement pour répondre aux besoins d'un individu ou d'un groupe d'individus identifiés. Un partenariat est la décision d'un ou plusieurs croyants de s'engager à contribuer continuellement aux efforts collectifs de l'Église afin de faciliter une diffusion plus large de la parole. Le privilège du croyant de donner vis-à-vis de Dieu et l'homme. Armé de cette nouvelle connaissance, quel est notre privilège de donner devant Dieu, notre prochain et l'Église? Le privilège du croyant de donner vis-à-vis de Dieu. Votre premier et le plus précieux cadeau est vous-même, à Dieu et dans son service. 2 Corinthiens 8, 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Le privilège du croyant de donner vis-à-vis de l'homme. La seule dette que nous devons à notre prochain est d'aimer. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Notre privilège de donner en faisant du bien s'étend non seulement aux croyants, mais à tous. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous devons faire du bien, partager ce que nous avons, être généreux et être prêts à partager. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 1 Timothée 6, 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Le privilège du croyant envers l'Église. L'œuvre du ministère ne progressera pas puissamment sans des individus engagés pour diriger l'effort. Nous devons de l'amour et du respect à ceux qui offrent librement leurs services pour répondre aux besoins de la direction spirituelle dans l'Église. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous devons partager toutes les bonnes choses avec ceux qui enseignent. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Lorsqu'ils ont un besoin, nous devons envoyer de l'aide pour leurs besoins. Philippiens 4, 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. L'attente est la récompense du donateur. Donner est le moment des semailles du semeur. Dieu est celui qui assure la récolte. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, grec avec bénédiction, moissonnera abondamment avec bénédiction. Pourquoi semer peu? Un semeur peut être réticent à semer trop de graines parce qu'il préfère en mettre plus de côté pour pouvoir les rôtir ou les moudre plus tard et faire du pain pour satisfaire son appétit. 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. L'homme a besoin à la fois de semer et de manger. Si un homme mangeait égoïstement toute sa semence pour combler sa faim, il finirait par avoir vraiment faim faute de récolte future. Il appartient à l'homme de décider de la quantité de semence à mettre de côté pour la nourriture et de la quantité de semence à mettre de côté pour les semailles. Plus il met une semence de côté pour les cultures, plus il peut être libre dans ses semailles. En tant que source de toute provision, Dieu est la main ouverte qui pourvoit à chaque créature vivante. Psaume 145, 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Nous venons à la main ouverte de Dieu, avec la main ouverte pour recevoir. Nous n'apportons pas quelque chose dans nos mains. Nous attendons à ce que Dieu nous rende quelque chose pour avoir donné quelque chose. Celui qui croit sème avec bénédiction, dispersant la graine abondamment, loin et au loin, ce qui entraîne la générosité, malgré tous les obstacles qui m'auraient menacé la récolte. Il sème la main ouverte, insouciant, avec abandon. Nous reconnaissons que si jamais nous voulons avoir quelque chose à donner, cela doit venir avant tout de la main de Dieu qui fournit. Il nous remplit de haut en bas et de haut en bas jusqu'à ce que nous débordions. C'est ça qui donne. Nos cœurs se réjouissent de l'action de grâce. 2 Corinthiens 9, 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Dieu merci en effet. Nous avons les mains ouvertes et les cœurs ouverts à donner.